Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Biotope. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Frédéric Jean, responsable de l'environnement et de la sécurité au sein du groupe Charles et Alice. Cette entreprise est née de la fusion de Charles Faro et Hero en 2011. Le site de production est basé à Alex et emploie plus de 150 personnes. Depuis de nombreuses années, le groupe agroalimentaire spécialisé dans les compotes de fruits a choisi d'investir dans l'environnement. De la gestion des déchets à l'économie d'énergie en passant par une implication des salariés, rien n'est laissé au hasard. Gain d'argent, marketing et image, l'initiative démontre que l'économie verte et attentive est une voie possible dans un monde souvent régi par le seul taux de rentabilité. On retrouve Frédéric Jean qui nous présente Charles et Alice.
Donc Charles et Alice, c'est une entreprise agroalimentaire donc située à Alex. Nous transformons 38 000 tonnes de produits par an et nous travaillons essentiellement la pomme et la poire fraîches tout au long de l'année. Nous les conditionnons en pot type yaourt, en cadrette par 4, donc un pot plastique thermoformé avec le produit fini à l'intérieur et operculé. Donc Charles et Alice, depuis environ un an, vient d'être créé. Avant, nous appelions Hero France. Nous appartenions au groupe Hero, qui était un groupe suisse international, un des géants de l'agroalimentaire. Et donc là, nous avons été rachetés par une société qui est située dans le Vaucluse, une société sœur qui avait à peu près la même taille que nous et le même nombre de salariés. Et donc maintenant, nous formons le groupe Charles et Alice.
Le poste de responsable environnement et sécurité est récent dans l'histoire de l'entreprise. Frédéric Jean nous parle de ses origines et de ses particularités.
Mon poste a été créé en 2003, effectivement. Moi, personnellement, je suis rentré en 1993 dans la société et j'avais d'autres missions à l'époque. Donc j'ai été détaché de mes missions pour m'occuper à plein temps de la mise en place, dans un premier temps, de la démarche ISO 14001. Nous avons été certifiés en mai 2003. Donc je pense qu'effectivement, depuis 2003, notre démarche environnementale a été, on va dire, sanctionnée avec l'obtention de la norme. Mais on avait commencé déjà cette démarche avant, puisque par exemple, en 2000, nous avons investi pour construire notre propre station d'épuration. Nous trions déjà avant les déchets, il y avait des choses qui avaient été mises en place. Mais c'est vrai que la démarche ISO 14001 nous a permis de franchir une nouvelle étape et de continuer à progresser dans notre démarche d'amélioration continue, et en particulier sur l'environnement et le développement durable.
Et alors aujourd'hui, quelle est la place de l'environnement au sein de la société Charles et Alice?
Donc l'environnement
tient une place. C'est un enjeu stratégique ?
C'est un enjeu effectivement stratégique qui a été donc formalisé dans notre politique. Au même titre que la qualité, au même titre que la productivité, que la satisfaction des clients. Donc notre président se tient informé de l'évolution donc de la démarche régulièrement et s'implique beaucoup dans la démarche.
Les économies vertes sont à inventer au sein des entreprises et à adapter aux problématiques propres à chaque site de production. Frédéric Jean nous parle de la dimension de recherche et de développement en présentant le travail qui a été réalisé sur la gestion des déchets au sein de l'entreprise Charles et Alice.
Par exemple, pour les déchets, je peux prendre un exemple concret. On avait une problématique il y a une dizaine d'années environ, c'est que nos pots qui étaient non conformes, on ne peut pas vendre, on les mettait à la poubelle. Et c'est carrément des bennes, c'est même plus qu'une poubelle, vu les volumes que ça représentait. Et donc, on avait une problématique, c'est que ces déchets pesaient très lourd et avaient tendance à... Voilà, notre problématique était de traiter nos déchets pots pleins. Donc, c'était des déchets qui sont très lourds, qui donc posaient de gros problèmes de surcharge à notre prestataire, qui pouvaient aussi s'écraser dans le camion, enfin dans la benne, donc couler un petit peu derrière les portes, donc, en mettre sur la route. Donc on avait une grosse problématique par rapport à ça. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est que ces déchets-là, au lieu de les jeter en décharge publique, on a essayé de récupérer la partie liquide et de la valoriser à l'alimentation animale. Donc on a fait un essai, on a déjà trouvé une machine qui était capable de séparer la partie solide de la partie liquide. Et ensuite on a essayé de trouver une voie de valorisation. Donc c'est vrai qu'on a étudié la méthanisation. À l'époque, ce n'était pas forcément encore très, très développé. On a étudié le compostage.
Alors, pour les néophytes, méthanisation, ça veut dire quoi ?
Donc c'est en fait transformer, faire fermenter la compote, récupérer le méthane qui est produit, et en fait, avec le méthane, faire tourner un moteur qui va produire de l'électricité et de la chaleur. Voilà, donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus avec les déchets organiques, avec les déchets verts, avec... voilà.
Très bien.
Donc la méthanisation à l'époque n'était pas très très avancée. Ensuite, on a étudié le compostage. Et notre produit était très très liquide, donc allait nécessiter beaucoup de génie civil, hein, de bétonnage, pour pas qu'il percole à travers le sol. Et enfin, l'alimentation animale. Donc on a contacté un éleveur de porc qui est situé à Grane, et donc a accepté de faire un essai avec nous. Donc le partenariat est le suivant. Nous, on lui fournit notre compote gracieusement. Et lui, en fait, il intègre dans la ration de ses porcs en remplacement de l'eau. C'est-à-dire qu'avant, il faisait une soupe avec de l'eau et puis des céréales. Maintenant, il fait une soupe avec de la compote et des céréales. Il n'a plus besoin de mettre de l'eau. Donc l'intérêt pour lui, c'est que la compote étant plus riche que l'eau, il a pu baisser certains apports dans sa ration qui lui ont fait diminuer. Et aussi, on l'a aidé à investir en fait, pour adapter son installation à pouvoir réceptionner nos produits. Donc en fait, on a acheté un silo de 20 mètres cubes dans lequel on va dépoter nos produits. On a aussi, on l'a aidé aussi à automatiser toute son installation et aussi à développer l'apport de soupe dans une partie de son élevage qui n'était pas à l'époque. Voilà. Et donc l'intérêt pour nous, c'est vrai qu'on a diminué énormément notre facture déchets puisque toute la partie liquide qui représentait 90% du poids du pot, même plus, maintenant part à l'alimentation animale et part plus bêtement enfoui dans un trou.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de vos déchets, en particulier donc des pots non conformes, ce problème-là est réglé.
Ce problème-là est effectivement réglé, oui.
Est-ce que dans la gestion de vos déchets, il y a d'autres déchets industriels dont vous devez vous occuper et...
Ben moi, je m'occupe de tous les déchets, hein, qu'ils soient dangereux, non dangereux, valorisables, non valorisables. Pour vous donner un ordre d'idée, on a un taux de valorisation qui est au-dessus de 90%. À l'heure actuelle, on valorise 94% de nos déchets. Voilà. Après, on a ce principe de partenariat, c'est quelque chose qui nous va bien et qu'on tend à développer. Par exemple, on a aussi un autre déchet qui est organique, qui est en volume très important, qui est le numéro 1 en termes de tonnage, qui est en fait la drèche de pommes. Dans notre process, comme je vous expliquais tout à l'heure, on reçoit les pommes et les poires fraîches. Donc on va bien sûr enlever la peau, la queue et les pépins avant de la conditionner. Donc cette peau, cette queue et ces pépins représentent plus de 1000 tonnes de coproduits par an. Et donc on a fait pareil, un partenariat avec un éleveur qui est situé à Montoison, qui lui en fait va récupérer cette drèche de pommes et va la mélanger avec son fourrage pour la distribuer ensuite à ses chèvres. Donc lui, il a trouvé son intérêt, c'est que c'était un aliment qui n'était pas cher. Nous, on lui cède pareil, gracieusement. Il y a juste le transport qui est à sa charge. Mais bon, Alex Montoison, c'est pas très très loin. Donc lui, ensuite, il mélange cette drèche avec son fourrage dans une remorque qui est sur bascule. Donc il sait exactement ce qu'il met avec les deux produits. Et ensuite, il va mettre en place en route un cycle en fait, qui va hacher le fourrage avec la drèche. Il va ensuite donc le distribuer directement dans les mangeoires à ses animaux. Et donc il est très très satisfait du résultat en termes de production de lait, en termes d'état sanitaire aussi de ses animaux. Et en plus, ça lui a permis de ne plus avoir à donner à manger à ses animaux deux fois par jour, mais une fois par jour. Donc en termes de qualité de vie, c'est quand même aussi assez sympa. Donc on est le métier de l'élevage, c'est tous les jours, le samedi, le dimanche, les jours fériés. Donc là, ça l'a permis d'avoir une qualité de vie. Voilà. Voilà le type de partenariat que l'on a mis en place tout autour de chez nous. Quoi.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Vous êtes bien à l'écoute de Biotop, au cœur de l'entreprise Charles et Alice, avec Frédéric Jean, responsable environnement et sécurité. L'entreprise affiche des valeurs fortes en matière d'environnement. Sur le terrain, cela se concrétise par de gros efforts en matière d'économie d'énergie et d'eau. Que Frédéric Jean nous présente.
Après 2003, on a beaucoup travaillé sur les économies d'eau, parce qu'on était un très très gros consommateur d'eau. On consommait plus de 600 000 m3 d'eau par an. Et depuis 2003, on a diminué de plus de 50% notre consommation d'eau à la tonne fabriquée. Donc là, on est quasiment en dessous de 200 000 m3 d'eau consommée en valeur absolue. Les plus gros gains ont été réalisés via des investissements. Donc, par exemple, on a mis en place le recyclage des eaux qui servent en fait à refroidir nos produits. Nos produits sont dosés à 90 degrés et donc sont refroidis avec de l'eau que l'on pompe dans la nappe. Donc ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a divisé notre tapis de refroidissement par deux. Et donc l'eau neuve, on va l'appeler neuve, qui passe sur la première partie du tapis, est reprise et repasse une deuxième fois sur la deuxième partie du tapis. Ce qui fait que ça nous a permis de diviser par deux notre consommation d'eau sur les tapis. Et c'était une des consommations prépondérantes de l'entreprise en termes d'eau. Ensuite, on a effectivement mis en place de la sensibilisation pour l'ensemble du personnel. On a mis en place des pistolets sur les tuyaux d'eau, par exemple. Et puis, on a mis tout en place une politique de suivi en fait, de compteurs qui nous servent en fait, à suivre nos consommations quasiment au jour le jour. Pour justement voir tout de suite de façon très précise quand est-ce qu'il y a une dérive et intervenir ou techniquement s'il y a besoin de réparer une fuite par exemple ou remettre une piqûre de rappel si c'est un problème de sensibilisation.
Alors concrètement ça veut dire que là tout de suite on voit le lien protection de l'environnement, économie d'eau mais aussi économie tout simplement financière parce que l'eau on la paye.
Alors pour le coup cet eau de forage nous coûtait pas grand-chose, si vous voulez, par rapport à de l'eau de ville, puisque c'est de l'eau qu'on pompait dans la nappe. C'est vraiment une démarche personnelle par rapport à nos consommations. Et aussi, c'est aussi stratégique, parce que vu des fois les périodes de sécheresse qu'il y a, bon, bien que cette année ne soit pas le cas, mais on a quand même vécu depuis 2003 des périodes de sécheresse très importantes, il fallait qu'on anticipe en intégrant le risque qu'on allait prendre. Parce que si on ne peut pas refroidir nos produits, eh bien, on ne peut pas travailler. Donc ça nous a aussi poussé à aller vers l'économie d'eau.
Donc prévoir au cas où si la nappe est vraiment trop...
Voilà. Bon, on fait des suivis aussi de hauteur de nappe. Il n'y a jamais eu, pour l'instant, d'incident ou d'une diminution très importante suite aux différentes périodes de sécheresse. Donc elle est assez costaud. Il faut quand même anticiper par rapport au réchauffement climatique et par rapport aux différents épisodes que l'on peut avoir avec le climat.
Alors, en termes de ressources naturelles, il y a également l'énergie. Bon, comme toute société, vous consommez de l'énergie. Là aussi, il y a eu un travail d'économie d'énergie.
Tout à fait. Donc, on est un très gros consommateur de gaz et d'électricité. Donc, on utilise le gaz naturel pour nos chaudières, pour produire de la vapeur, pour cuire en fait nos produits et les pasteuriser. Donc, on a mis en place des systèmes en fait pour récupérer la vapeur une fois qu'elle a joué son rôle, qu'elle s'est retransformée en eau. Donc on a par exemple remis en place des pompes qui vont récupérer l'eau bouillante et la remettre en tête de chaufferie, si vous voulez, pour qu'elle puisse être réutilisée. Avant, on utilisait de l'eau froide qu'il fallait réchauffer, donc là, le gain, il est là. On a aussi donc calorifugé pratiquement l'intégralité de nos tuyaux, c'est-à-dire qu'au lieu d'être le tuyau nu dans l'usine avec des pertes calorifiques, il y a une coque en laine de verre tout autour qui permet d'avoir donc une diminution des pertes idiotes. Quoi. Mmh. Voilà. Pour l'électricité, on a fait plusieurs choses. On a changé nos compresseurs d'air. Hein. On a des machines qui sont automatisées, qui fonctionnent avec de l'air comprimé. Donc on avait des vieux compresseurs qui avaient des rendements électriques qui n'étaient pas forcément adéquats par rapport à la période où on est. Donc il y a 2 ans, on a changé carrément l'intégralité de nos compresseurs, en intégrant donc dans nos cahiers des charges des normes de rendement moteur les plus pointues en termes d'économie d'énergie. Donc tout ça nous a permis d'aboutir à une diminution de 10% de notre consommation électrique à la tonne fabriquée, avec ce que ça peut aussi engendrer en termes de diminution de la facture. Parce que là, pour le coup, autant l'eau, ça ne nous coûtait pas très cher, que l'électricité, ça coûte assez cher.
En termes de projets futurs?
Oui, on avait un projet, en fait, on voulait couvrir tous nos stockages avec des panneaux photovoltaïques. Et donc, on étudie ça, ainsi que notre parking, pour justement que quand nos salariés garent leur voiture en été, ils ne fassent pas 45 degrés quand ils reprennent leur voiture, et en hiver, que ce ne soit pas tout gelé aussi quand ils partent. Donc on étudie cela. Et aussi, peut-être, mettre une petite éolienne ou deux dans notre gazon. On a une grande partie en fait dans notre usine qui n'est pas construite, avec beaucoup d'espace vert. Donc on aurait de la place justement pour mettre ce type de d'éolienne. Quoi.
Alors ça, ce sont des projets qui sont à l'état pour l'instant juste d'études de chiffrage, ou c'est quelque chose qui va se faire à terme?
Pour l'instant, c'est vraiment qu'à l'étude de chiffrage. On rencontre la semaine prochaine des gens qui doivent nous proposer des solutions concernant le photovoltaïque. Et ensuite, bon, toujours la même démarche, présentation à la direction, validation, et puis ouais. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté, mais on y travaille vraiment activement dessus.
Le développement de la filière bio pour la création d'une nouvelle gamme est aussi un engagement fort pour le groupe. Malheureusement, malgré l'abondance d'exploitations fruitières en Drôme et en Ardèche, Charles et Alice ne travaillent qu'avec des exploitants de la région PACA. Sans nous expliquer les raisons de l'absence de lien avec les entreprises et exploitants de Drôme-Ardèche, Frédéric Jean nous parle de cette démarche, qui reste locale selon lui.
Sur le même principe, avec les éleveurs, on a monté des partenariats avec des arboriculteurs plutôt en PACA. On n'en a pas trouvé prêt à partir avec nous dans la région.
Vous avez d'abord essayé de travailler localement?
Oui, bien sûr. Ouais. On a essayé de trouver en fait des arboriculteurs qui acceptaient en fait de planter des vergers bio en collaboration avec nous. Et le principe, c'est que nous, on s'engageait à leur acheter l'intégralité de leur récolte. Donc, il y a 3 ans, on a planté les premiers vergers. Donc, la production va être faite cette année. Les premières pommes vont être cueillies cette année. Et donc, on réserve en fait cette production à notre gamme Charles et Alice bio, avec donc des fruits produits dans un rayon de 150 km autour de l'usine. Donc, sur les pommes, sur les poires. Et on a aussi un produit avec de la châtaigne d'Ardèche. Voilà, donc on a vraiment essayé de faire une production locale en bio.
L'ensemble des employés de Charles et Alice sont impliqués dans la démarche environnementale de l'entreprise grâce à des objectifs fixés chaque année en matière d'économie d'énergie.
La direction, chaque année, nous fixe des objectifs environnementaux spécifiques qu'elle va suivre au moins tous les 3 mois, hein, qui sont affichés à l'ensemble du personnel, qui sont remis à jour mensuellement, eux par contre. Donc elle suit ses objectifs et elle nous donne aussi les moyens de les atteindre. Donc nous, en fait, moi je suis en charge de faire ressortir en fait des projets qui vont aller dans ce sens, comme par exemple les économies d'eau, les économies de gaz et les économies d'électricité.
Ça veut dire que autant il y a les commerciaux, les ventes qui ont des objectifs de vente, et vous avez des objectifs d'économie d'énergie qui sont fixés sur une année.
Tout à fait. Nous avons des objectifs d'économie d'énergie, des objectifs de traitement de l'eau, des objectifs de gestion des déchets. Donc ils sont suivis et ils sont affinés chaque année en fonction de l'atteinte ou pas des objectifs.
Alors ça veut dire quand on fixe de tels objectifs, vous avez parlé de sensibilisation auprès du personnel, ça veut dire qu'il y a une implication de tout le monde pour pouvoir atteindre ces objectifs, comme des objectifs de productivité, j'imagine. Comment on fait pour réussir à impliquer tout le monde sur ce genre d'objectifs? Il y a des primes,
Tout à fait, donc le personnel a une prime individuelle, dont une partie peut être liée à des objectifs environnementaux qui les concernent spécifiquement par rapport à leur ligne. Par exemple, ceux qui fabriquent la compote s'occupent aussi de tout ce qui est lavage des fruits, donc beaucoup de consommation d'eau et beaucoup de pollution de l'eau. Hein. Donc eux, par exemple, sont plutôt objectivés sur l'eau. D'autres secteurs, c'est plutôt les déchets.
Est-ce qu'il y a une réflexion également au niveau de la mobilité au sein de Charles et Alice?
Tout à fait. En fait, on a, à l'époque, quand le site Écovoituron dans la Drôme existait, donc Charles et Alice a offert à chaque salarié qu'il souhaitait l'adhésion à ce site. On a ouvert nos portes pour que l'association puisse venir promouvoir le covoiturage au sein de l'entreprise. Et on est même allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a, au niveau des ressources humaines, on a repris les lieux d'habitation de chaque salarié, et en fait on a créé des circuits. C'est-à-dire que la personne qui habite à La Voulte passe à Livran et vient à Aix. Donc en fait chaque salarié sait sur son circuit qui est sur son circuit en fait. Donc en fait charge à lui, hein, on n'en impose rien quand même, hein, charge à lui de rencontrer la personne et d'éventuellement faire du covoiturage. Donc à l'heure actuelle, il y a une bonne dizaine de personnes qui covoiturent régulièrement au sein de notre société.
On termine cette émission Biotop sur BioVallée. Que représente BioVallée pour une grosse entreprise telle que Charles et Alice? Quelles sont ses attentes et ses implications possibles?
Nous, on souhaite s'inscrire dans cette démarche. On suit activement, on participe aussi au débat, justement, par rapport à cette marque, par rapport aussi à engager certains arboriculteurs à faire cette démarche avec nous. Donc, on a beaucoup de contacts avec les personnes qui s'en occupent au niveau de BioVallée pour justement participer activement et... ça va tout à fait dans le sens de notre démarche, puisque nous, on produit beaucoup de produits bio. Donc, on est une entreprise qui est située dans la BioVallée. À la limite, c'est assez cohérent, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau de BioVallée, on participe toujours quand il y a des enquêtes concernant, par exemple, les déchets. On a été sollicité, on a participé. On intervient aussi, des fois, dans des colloques, au niveau de... à heure, au niveau de l'amphi là, qui a été créé. Donc c'est vrai qu'on est assez actif et toujours prêt à s'impliquer dans la vie locale, quoi.
Vous, en tant que responsable de l'environnement pour la société Charles et Alice, des attentes particulières vis-à-vis de la BioVallée, hormis la marque BioVallée qui pourrait évidemment s'associer aux produits Charles et Alice?
Oui, j'ai des attentes, même certaines qui ont été résolues. Par exemple, je me suis rapproché donc de la BioVallée et de la CCVD pour obtenir en fait des colonnes de tri pour les salariés en sortie d'usine. Donc ça a été installé cette année et donc ça m'a permis aussi de mettre en place le tri sélectif comme chacun, tout à chacun chez lui au sein de la cuisine pour les salariés. Donc avec une colonne de verre, une colonne de papier, une colonne d'emballage plastique. Sachant que nous, en agroalimentaire, le verre était interdit. Donc moi, je n'avais pas de filière quelque part pour traiter, c'était une problématique pour nous. Donc je me suis rapproché de la CCVD et de BioVallée, et on a obtenu la dépose de ce type de colonne. On a aussi fait d'autres choses en partenariat avec eux. C'est le, on a permis aux salariés qu'ils souhaitaient d'obtenir un composteur. Donc ils ont été livrés chez nous. Ils n'ont pas eu besoin d'aller à créer, le chercher. On a facilité, si vous voulez, les démarches pour qu'ils puissent en obtenir. Et pareil, il y a 25 personnes qui sont équipées maintenant de composteurs via CCTV et BioVallée.
Quel est le regard au niveau des dirigeants d'une organisation comme la BioVallée ?
Nos dirigeants sont à l'écoute de BioVallée, de l'actualité de BioVallée. La preuve en est, c'est que dès qu'on a aussi des fois des petites manifestations au sein de notre société, on invite régulièrement le président donc de la BioVallée pour participer aussi à nos manifestations et aussi à discuter avec, par exemple la dernière fois avec les investisseurs qui ont investi dans notre entreprise de BioVallée, par rapport à nos démarches bio, quoi.